French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Et quand j'ai vu des gens autour de moi, avec qui j'avais grandi et que je pensais pas en tout cas qu'il y avait quelque chose de plus que moi, je me suis dit, si eux peuvent le faire, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on développe tous, en tout cas pour réussir son immigration, c'est la patience, hein. Parce que ça prend du temps de s'intégrer, et puis on va se tromper, hein, parce que je le dis souvent aux gens qui arrivent, dans 6 mois, les copains que vous avez aujourd'hui, la moitié, vous les verrez plus. Parce qu'au début, on va aller vers des gens parce qu'on a besoin de contact.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous amène du côté de Toronto, au Canada, à la rencontre d'Astrid, alias Fringinto. En 2013, Astrid prend une grande décision. Elle vivra un an à l'étranger pour parfaire son anglais, mais aussi pour partir à l'aventure. Ni une ni deux, après plusieurs heures de recherche, elle découvre le fameux PVT canadien. C'est 3 lettres magiques qui veulent dire programme, vacances, travail, et en dégote un finalement assez facilement. La voilà donc à Toronto, et là, le coup de foudre. Mais au bout d'un an, Astrid rentre en France. Et là, c'est pas si facile. C'est un constat difficile à faire après 15 jours à retrouver les copains, quand on réalise que finalement leur vie ont continué sans nous et que c'est à nous de réclamer notre place d'avant. Puis finalement, relativement rapidement, Astrid se rend compte que Toronto continue à lui faire de l'œil. Alors elle se relance et reprendra la route du Canada fin février 2017. Dans ce nouvel épisode, nous discutons donc adaptation et patience, les maîtres mots de son expatriation. Nous parlons aussi travail et emploi, le monde du travail dans l'Ontario qui diffère grandement de ce que nous connaissons, et de ne pas avoir peur de faire ce qui pourrait s'apparenter à des sauts de puce en France, afin de trouver sa voie et ses passions professionnelles. Et on parle de tout cela avec beaucoup de bonne humeur et d'humour. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Astrid. Bonjour Astrid, bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ce soir?
Alors, je vous parle en direct de Toronto, au Canada, où tout va très bien. Tout va très bien, on attend le printemps avec impatience. En ce moment, on joue entre les nuages et le soleil. Mais c'est un printemps plutôt doux quand même pour le Canada.
Bon, très bien, c'est sympa. On se parle d'ailleurs dans un contexte un petit peu particulier, puisque pour l'instant, on attend le printemps, mais même s'il était là, on le verrait pas complètement, puisque on est tous à la maison. Est-ce que on peut discuter un petit peu de qui tu es, Astrid, avant que tout ça se passe? Quel âge tu as? D'où viens-tu en France? À quoi ressemble ton quotidien?
Alors, je suis ardéchoise, j'ai 32 ans. Ouf, oh. Je crois que j'ai fêté mon anniversaire au mois de février et je suis pas sûre que depuis j'ai dit ça à moi.
Joyeux anniversaire.
Merci. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir pu rassembler tous mes amis quelques semaines avant qu'on soit tous confinés.
Tu m'étonnes.
Ouais, ça a été un peu le dernier truc qu'on a pu tous fêter ensemble. Et donc oui, je suis ardéchoise, mais souvent je me présente comme Drôme ardéchoise puisque j'ai grandi sur le bord du Rhône, sur les bords du Rhône, et donc pas très loin de Valence, où j'ai fait une partie de mes études et où j'ai habité avant de m'envoler pour Toronto. En 2014.
Très bien. Alors, on va y revenir. Est-ce que toi, petite, en grandissant, tu as eu tu as toujours eu envie comme ça de voyager, de vivre à l'étranger, ou comment est-ce que cette envie de partir t'est venue?
Alors, c'est marrant parce que j'ai grandi avec des grands-parents qui ont voyagé, qui ont quasiment fait le tour du monde, je pense. Donc, ils nous ont beaucoup partagé ça. Par contre, mes parents, ils ont jamais beaucoup voyagé. Donc, nous, par conséquence, on n'a pas beaucoup voyagé avec eux petits. Mais en fait, j'ai un de mes oncles qui habite aux États-Unis. Donc, j'ai toujours eu depuis toute petite, hein, je suis née, il était déjà là-bas. J'ai toujours vu, en fait, mes cousins des États-Unis. J'ai toujours aimé regarder les séries américaines. J'étais en avance, d'ailleurs, sur tout le monde. Grâce à Internet, à 16 ans, je regardais les séries qui passaient aux US, qui n'étaient pas encore en France. Et en fait, pendant mon année de fac, j'ai fait une seule année de fac parce qu'on n'était pas, ça pas vraiment fonctionné, cette relation-là. Je suis partie quelques jours en Angleterre sur les conseils de mes parents. Et j'ai découvert que l'anglais, en fait, finalement, c'était cool. C'était intéressant. Donc, l'année d'après, quand je suis partie en BTS, j'ai choisi de faire mon stage de 2 mois. J'ai fait un BTS commerce international. Mon stage de 2 mois, j'ai décidé de le faire en Angleterre. Et là, l'expérience m'a vraiment plu de me retrouver 2 mois dans un contexte que je connaissais pas, dans une langue que je parlais pas. Parce que, je vais pas mentir, mon anglais était tellement mauvais parce que j'avais appris l'espagnol, en fait, en premier. Et j'y trouvais beaucoup plus d'intérêt que l'anglais. Et quand je suis partie pendant ces 2 mois, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, OK, tu repartiras vivre 1 an à l'étranger. C'est quelque chose que tu feras. Je sais pas encore comment, quand, mais tu le feras. J'ai fini mon BTS, j'étais amoureuse. Et donc, bon, les pièces ne s'assemblaient pas encore correctement. Et j'ai profité de cette relation-là, et puis après, quelques années après, donc ça a pris quand même du temps, parce que je pense que j'ai commencé à avoir l'envie d'explorer, j'avais peut-être 16 ans, et je suis partie, j'en avais 26.
D'accord, ah ouais, donc en fait, t'as pris 10 ans, quoi.
J'ai pris mon temps, même quand j'ai décidé de partir, ça m'a pris aussi encore 1 an, donc...
Ouais. Donc, ah bah oui, ça s'improvise pas.
Voilà, non. Mais il y en a qui improvisent, hein, parce que je suis au contact de beaucoup de personnes qui partent dans le cadre du PVT, donc du programme vacances travail, on en parlera après, mais c'est le visa que j'ai eu pour venir au Canada. Et c'est vrai que j'entends des histoires de gens qui me disent, oui, je suis partie en quelques semaines, quoi. Et c'est vrai que moi, ça a été plus long, quoi. Et encore, quand je vois les histoires d'autres expats / immigrés, parce que bon, on n'est pas, moi, je me considère pas vraiment comme une expat, c'est rapide, hein, non?
Ouais, ça va vite. est-ce que tu peux nous dire, alors justement, donc c'est quoi en 2014 que tu as décidé de faire le grand saut, enfin en tout cas que tu as fait le grand saut, donc tu t'es décidé un peu avant, à quoi ressemblait ta vie du coup 1 an avant, donc en juillet 2013, quand tu as eu cette prise de décision, que tu t'es dit moi ce sera le Canada et ce sera l'année prochaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le déclic et à quoi ressemblait ton quotidien à ce moment-là?
Alors en 2013, en février 2013, j'ai fêté mes 25 ans et pour moi c'est un peu, je suis pas du tout du genre à me mettre la pression à me dire à 25 ans il faut que t'aies fait ça, 30 ans il faut que t'aies fait ça, mais je me suis dit quand même 25 ans, ça faisait un peu plus d'un an, je crois, que j'étais séparée de la personne avec qui j'habitais avant, et je me suis dit c'est un peu une étape charnière, parce que dans les 5 prochaines années de ta vie, il y a des choses qui vont se décider et tu auras peut-être plus la flexibilité, la liberté de partir. Parce que je me disais, à 30 ans, tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être... Bon, ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas du tout le cas, mais c'était la vision que j'avais. Et donc, je me suis dit, 25, c'est une étape charnière. Si tu veux partir, c'est maintenant ou jamais. Et une chose qui m'a un peu poussée aussi, c'est que je me suis toujours dit que c'était compliqué de partir, que je pense que je me mettais moi-même mes propres barrières. Et quand j'ai vu des gens autour de moi, avec qui j'avais grandi, et c'est vraiment pas péjoratif quand je veux dire ça, mais que je pensais pas en tout cas qu'il y avait quelque chose de plus que moi, je me suis dit si eux peuvent le faire, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Donc ça a commencé à tourner un peu dans ma tête. Je me suis décidée, je me suis dit OK, tu sais pas encore comment, tu sais pas où, mais tu vas le faire. Et ce qu'il y a aussi parce que c'est quand même plusieurs éléments, c'est pour ça qu'il y a pas
un élément qui a poussé la décision, mais en fait, je travaillais pour Wurt, qui est une société de... J'étais commerciale, en fait, dans le bâtiment. Et je savais que, professionnellement, au bout de 3 ans, il y a des choses qui allaient bouger pour moi et qui n'allaient pas forcément être avantageuses. En tout cas, où j'avais plus de possibilités d'évoluer. Donc, je me suis dit, ton moment charnière, c'est vraiment ta limite, c'est les 3 ans. Tu veux pas faire plus de 3 ans. Donc, il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu trouves quelque chose d'autre qui va te plaire. Donc, tout ça, en fait, est arrivé en quelques mois. Comme je travaillais déjà pour, la société pour laquelle je travaillais, c'était déjà le numéro 1 dans notre domaine. Je me voyais pas là, la concurrence. Et donc, je me suis dit, bon, mais là, c'est vraiment, tout est en train de s'aligner pour te dire, OK, c'est le moment de partir. Et quelques mois après, en faisant des recherches, j'ai trouvé le PVT. C'était l'année où, bon, pour ceux qui sont plus familiers avec le PVT Canada, c'était l'année où ça a été décalé. Les demandes se faisaient avant en novembre. Cette année-là, elles sont faites en février. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Et ma vie, j'étais commerciale. J'adorais ce que je faisais. J'adorais mon boulot. Pendant 3 ans, j'ai vraiment pas eu l'impression de travailler. Marrant, parce que j'étais dans le bâtiment en Ardèche, quand même. Donc, c'était un choix, hein, parce que j'anticipe la question, mais on me demande souvent. C'était vraiment un choix de travailler dans le bâtiment parce que je viens d'une famille d'artisans. Donc, c'était un milieu que je connaissais.
Un milieu qui parle.
Voilà, c'est ça, un milieu où je me reconnaissais et qui m'intéressait pour m'intégrer aussi plus dans le côté professionnel de ma famille. Enfin, j'étais célibataire, je vivais en centre-ville, je faisais la fête jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. J'étais très très active socialement. Et ce qui s'est passé aussi, la dernière chose qui s'est passée, parce que là c'est juste l'année 2013, hein, du coup je retrace juste l'année 2013. Ce qui s'est passé, c'est aussi que j'ai fait ma deuxième et troisième infection du rein. Et donc, j'ai passé 3 mois couché, octobre, novembre, décembre. Je veux pas comparer à ce qu'on est en train de vivre maintenant, mais socialement, pour moi, c'était un peu la même chose parce que je me suis retrouvée chez moi, à plus pouvoir sortir. J'avais une opération qui était prévue fin novembre 2013. Et en me retrouvant couché, je me suis dit... en fait, on n'a qu'une vie. Si tu le fais pas maintenant... enfin, parce que ça aurait pu être plus grave. Je savais pas exactement ce que j'avais. Je l'ai su, mais pendant des semaines, des mois, j'ai attendu de savoir ce que c'était. Et pour moi, ça a vraiment été le déclic de me dire, en fait, ça aurait pu être plus grave que ça. Et tu aurais pu ne pas avoir l'opportunité de vivre tout ce que tu vas vivre. Donc, ouais. Voilà, bienvenue en 2013 dans la vie d'Astrid.
D'accord, ouais, donc une année sacrément mouvementée, mais du coup, avec des grosses prises de conscience et une année un peu rock'n'roll, quoi.
On s'est pas ennuyé.
Ouais, tu m'étonnes. Oh, la vache. Donc du coup, ton opération se passe bien.
Ouais.
Et tu te dis, donc là, on est toute fin 2013. Et donc là, t'as choisi. Enfin, tu t'es dit que ce sera le Canada.
Alors,
comment est-ce que t'as choisi la destination du coup? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, le Canada, pour ceux qui connaissent pas le principe du PVT, donc le permis de vacances travail, c'était un permis qui à l'époque était un permis de travail qui était d'un an, donc qui est maintenant de 2 ans depuis 2015-2016 à vérifier, mais c'est un permis ouvert et qui permet de soit comme son nom l'indique, soit de travailler, soit de prendre des vacances entre guillemets, c'est-à-dire explorer le territoire. Donc c'est un accord que la France a avec 13 pays dans le monde, si je dis pas de bêtises, dont le Canada est le seul qui se fait par tirage au sort. Parce qu'il y a trop de demandes. Donc c'est un peu dur de planifier tant qu'on n'a pas le visa. C'est même impossible parce qu'on peut pas parier toute sa vie sur un tirage au sort. Et à cette époque-là, c'était même pas le tirage au sort, c'était premier arrivé, premier servi. Donc les serveurs ont buggé. Il y avait trois rondes. Il fallait se connecter le plus vite possible. Moi, j'avais réussi à la deuxième. Enfin, ça avait été un carnage. Ils ont fait ça 2 années de suite. Et après, ils sont passés au tirage au sort qu'on connaît actuellement et qui est beaucoup plus, du coup, équitable pour tout le monde et qui met moins la pression autant sur les gens que sur les serveurs parce que les serveurs informatiques n'ont pas aimé. Et donc, je m'étais dit, OK, ce sera le Canada. Si tu n'arrives pas à avoir le visa, tu partiras à Londres. J'adore Londres. Je m'étais dit, OK, c'est un plan B. Londres était beaucoup plus cher que Toronto à l'époque. Maintenant, Toronto a bien augmenté. Mais donc, je savais qu'il allait me falloir quand même beaucoup plus de ressources. Ça allait être différent. Et puis surtout, c'est que si je partais au Canada, il y avait un visa, il y avait une date. Alors que Londres, vu que c'était plus flexible, j'avais un peu peur aussi de plus prendre mon temps. et de pas forcément concrétiser.
Ouais.
Donc me voilà le 15 février 2014 à postuler, à réussir à en tout cas à être sélectionnée pour le visa. Donc après c'est quand même assez rapide, hein. C'est une question de quelques semaines à renvoyer des papiers, à attendre qu'ils répondent, à renvoyer d'autres papiers. Et j'ai eu la réponse début mars.
Ah oui.
Le plus difficile, c'était d'être mis dans le bassin. Et une fois qu'on avait un numéro, en fait, ça nous donnait un numéro. Et une fois qu'on avait un numéro, on savait que si ton profil est bon, moi le mien, enfin, je veux dire, j'ai pas de casier judiciaire. Comme il y a pas, c'est ils regardent pas tes diplômes, en fait.
D'accord.
C'est pas basé sur ton expérience, ou c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, tu sais qu'une fois que t'avais ton numéro, une fois que t'étais dans le bassin, il y avait très très peu de chances, enfin très peu de risques que tu sois refusé. Donc.
D'accord. Il n'y a pas une limite d'âge sur le PVT ?
Si. Alors au Canada, c'est 35 ans. Canada, 35 ans. Australie et Argentine. J'ai lu quelque chose encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que je les ai en tête. Et sinon, les autres, c'est 30 ans. Et c'est révolu à chaque fois. Donc bon, c'est jusqu'à la veille des 36 ou à la veille des 31. Donc ça laisse, oui, le Canada, ça laisse une plus grande amplitude.
Ouais, marche de bonheur.
Ouais, non, c'est génial. Bah, en fait, le gros avantage aussi. Donc, on peut en faire plusieurs, hein, dans tous les pays. En Australie, c'est cumulable. En Canada, ça n'est pas cumulable. Mais après, on peut enchaîner sur d'autres visas comme moi. Donc, mais j'en parlerai après. Et surtout, ça permet d'avoir la liberté, comme c'est un visa ouvert, de changer d'employeur. Donc,
ouais, ça, c'est précieux.
Voilà. On est lié à personne. Et puis là, maintenant, c'est 2 ans. Donc, 2 ans, ça permet quand même de se faire une idée, savoir si on veut rester ou pas. Parce qu'un an, c'était un peu court.
Ah, c'est clair. Je me souviens, mon premier séjour, quand je suis partie, donc c'était aux États-Unis, mon premier long séjour à l'étranger, et je partais donc pour 7 ou 8 mois. Et je me souviens que je partais vraiment à l'aventure et tout. Et je me souviens de plein d'étudiants, en fait, locaux, qui étaient eux là pour 3-4 ans, qui m'avaient dit, mais, en fait, tu vas pas rester, quoi. C'est dommage, tu vois, on va pas se connaître. Je dis, mais attends, mais. Et puis c'est vrai qu'en fait, au moment où tu vas repartir, tu dis, mais en fait, non, j'ai rien vu. C'est vrai que ça passe super, super vite. Donc je comprends ce que tu veux dire.
Je me dis toujours, un an, en fait, c'est qu'une saison de chaque. Tu vois qu'une fois le printemps, tu vois qu'une fois l'été, qu'une fois. Donc c'est vrai que ça passe vraiment très vite. Donc moi, j'ai obtenu celui-ci mon premier PVT, parce que c'est pas cumulable, mais bon, moi j'ai réussi à en avoir 2, parce que justement c'était 1 an et c'est passé à 2 ans après, quand la loi a changé, et tous ceux qui avaient fait seulement 1 an ont eu le droit de repostuler, parce qu'avant en fait on pouvait enchaîner un PVT et un jeune pro, donc un jeune pro par contre fallait avoir une entreprise qui s'engageait avec nous, donc ça permettait de faire 1 an 1 an. Et en fait ils ont basculé les 2 visas à 2 ans chacun. Toutes les personnes qui, comme moi, n'avaient eu droit qu'à 1 des 2 visas d'un an, ont eu droit de repostuler à 1 des 2 visas pour 2 ans.
D'accord.
Donc ouais, non, mais enfin, tout s'était aligné pour que je
ouais, c'est génial. Génial. Ouais, les astres étaient avec toi. Donc du coup, tu obtiens donc ton visa permis vacances travail. Est-ce que à cette époque-là, tu sais où est-ce que tu vas partir au Canada, et qu'est-ce que c'est en fait vraiment ton plan? Parce que donc là, tu finis ton BTS, c'est ça? Non, t'as fini ton BTS du travail, pardon. Excuse-moi.
Là, je travaille, je suis commerciale. On est début mars, je m'étais pas trop permise de me projeter tant que j'avais pas le visa. Donc j'avais pas vraiment choisi de ville. J'avais le choix entre pour moi les 3 villes majeures, c'était en tout cas à ce moment-là pour moi dans mon choix, c'était Montréal, Toronto ou Vancouver. Vancouver, ma famille est à Seattle. Donc c'était vraiment pas loin. Donc eux forcément ils tiraient la corde de ce côté-là. J'avais mes amis qui étaient à Montréal, mais je trouvais que c'était un peu trop facile, parce que vraiment mon idée c'était d'aller quelque part où je connaissais personne. J'avais pas du tout envie de me raccrocher à qui que ce soit. J'avais vraiment envie d'avoir l'opportunité d'être toute seule et d'être qu'avec moi-même et d'en profiter pour me réinventer, quoi. Et aussi d'apprendre l'anglais, parce que bon, le gros challenge là-dedans, c'était quand même de réussir à me faire parler anglais.
Ouais. Et t'avais déjà voyagé seule avant, à l'étranger?
Non, j'avais passé 2 mois en Angleterre, mais c'était quand même pas pareil. Non, j'avais jamais mis les pieds en Amérique du Nord.
Wow.
On me voit pas, mais j'ai eu un grand sourire parce que quand j'y repense, je me dis, mais heureusement qu'on m'a pas dit toutes les étapes qu'il y allait avoir après. Parce que j'aurais sûrement dit, oulala, laissez-moi tranquille en Ardèche. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, par contre, une fois que j'ai eu le visa, j'ai décidé que j'allais à Toronto, parce que pour moi, il y avait l'anglais, mais il y avait aussi le fait que c'est la capitale économique du Canada. Beaucoup pensent que c'est la capitale du Canada, d'ailleurs. Enfin, mais non. Et pour moi, qui était très orientée pro, je me suis dit que c'est aussi là où j'allais avoir le plus d'opportunités professionnelles. Donc c'est ça qui m'a attirée. Il faut se remettre aussi dans le contexte qu'en 2013-2014, quand j'étais en train de préparer ça, on n'avait pas, ça va probablement faire rire un peu quelques personnes, mais Instagram, les blogs, c'était pas du tout développé comme maintenant. En six ans, ça a explosé. Donc j'avais pas les ressources qu'on a actuellement. J'avais personne comme
des recherches avant d'arriver.
Voilà, je savais pas du tout où j'allais, quoi. J'allais sur Google Maps pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. Donc
c'est clair.
C'est un autre temps.
Et ouais.
Et
pourtant, c'était il y a pas si longtemps.
Ouais, non, c'est ça qui est. Et c'est quand j'y pense, quand je pense au début du blog ou moi à mon arrivée ici, c'est complètement différent de ce que j'ai, de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et j'imagine que l'expérience est complètement différente aussi. Mais en fait, après, par contre, ça allait très vite du moment où j'ai le visa. J'ai changé ma photo de couverture sur Facebook parce que c'était le truc à faire à ce moment-là. Et j'ai mis une photo de la skyline de Toronto et c'était parti, quoi. En 10 jours, je crois que je l'ai annoncé à mon employeur.
Ah ouais.
Ouais, parce que j'avais 3 mois de préavis parce qu'on, comme j'étais, on était VRP. VRP, on avait 3 mois de préavis, donc il fallait quand même que ça soit fait rapidement. Je crois que je lui ai annoncé peut-être le 10 mars ou 11 mars. Mon dernier jour, c'était le 17 juin. Et j'ai embarqué le 1er juillet.
D'accord. Donc, voilà. Ah, wow. Ouais, t'as pas traîné, hein?
Oui, par contre, c'est ça. Mais c'est tout le temps ça. Même quand je change de job, je fais plus ça. Mais quand je changeais de job, j'arrêtais le vendredi d'un côté, le lundi je repartais ailleurs, quoi. je traîne pas parce que je suis excitée par ce qui va se passer après. Donc j'avais pas forcément de raison de traîner.
J'ai hâte de passer à la suite, quoi, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc le 1er juillet, qui est la fête nationale du Canada. Canada Day, que...
Ah oui, en plus, c'est vrai.
Oui, mais moi, il faut dire à quel point j'étais renseignée. Je ne savais pas du tout. Non, mais... Mais moi, et en plus, c'était justement après Pride, donc la Gay Pride, et qui est le dernier week-end de juin. Et moi, j'arrive le 1er juillet et je me rappelle, je me fais la réflexion en me disant « Oh, il y a des drapeaux gays dans les banques, il y a des drapeaux gays de partout, mais c'est génial et tout !» Et oui, effectivement. Puis maintenant, en plus, je vis dans le quartier, donc effectivement, c'était bon. Déjà, ils sont très très ouverts et c'est pas surprenant. Mais c'était le 1er juillet et donc maintenant, je me dis que chaque année, pour ma date anniversaire avec le Canada, j'ai des feux d'artifice. Voilà.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça quand même. Hein. Moi, j'ai pas ça pour mon anniversaire avec les US. Je suis un peu jalouse. Mais alors du coup, comment se passe ton arrivée? T'avais sécurisé un appart ou t'avais commencé un peu à prospecter pour un job? Ou comment sont passés du coup tes premiers jours? À quoi est-ce que tu t'attendais? Et comment est-ce que tu t'es sentie un peu accueillie dans ce nouveau pays?
Alors, avant, on avait la possibilité sur le site pvtis.net qui rassemble toutes les informations sur les PVT dans le monde. De retrouver d'autres PVTistes qui allaient partir et qui étaient dans notre coin. Et je trouve que j'ai trouvé en fait quelqu'un m'a trouvé d'ailleurs, je crois, qui habitait près de Valence, où j'habitais à ce moment-là. Donc on s'est retrouvé et il a pris son billet le même jour que moi.
Mon époux.
Ouais, non, c'est vraiment ouais. Bon, lui il est resté que 10 mois, je crois. Mais du coup, ça nous a permis de prendre un Airbnb ensemble la première semaine pour partager les frais. Mmh. Et puis on pouvait être tout seul, c'était sympa aussi. Moi, j'avais pas du tout peur, hein, de partir toute seule, mais bon, ça me dérangeait pas. Et puis, on a passé la première nuit là-bas. Et moi, j'avais commencé à prendre des rendez-vous pour un appart avant. Donc, le lendemain, j'ai visité un appart à midi et j'ai emménagé à 8h le soir. Donc, voilà. Non, mais encore une fois, tout s'aligné, hein. Ouais. Tout s'aligné.
Je suis dans cette philosophie d'avancer rapidement aussi.
Ouais, voilà. Oui, ah non, mais. Donc, j'ai emménagé. J'y suis restée toute ma première année.
Toute seule, du coup?
Alors non, par contre en coloc, parce que déjà je voulais avoir l'occasion rencontrer du monde parce que je suis très très sociable, donc il fallait que je... Ça, c'était un aspect que j'avais pas anticipé. Maintenant, j'essaie de beaucoup plus en parler de ça, que l'aspect vie sociale, c'est difficile quand on part dans un autre pays.
C'est clair.
Et en fait, on était quatre. et une Canadienne, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, une Coréenne et une Allemande. Donc on était toutes les quatre. Et après la Allemande est partie, c'est une Française qui l'a remplacée. Et donc c'était un peu l'auberge espagnole dont moi j'avais rêvé. parce que le soir on allait se retrouver, ben moi j'avais travaillé sur mon blog et elles étaient étudiantes, donc on était avec nos ordi à papoter le soir, on a fait pas mal de choses ensemble, donc ça c'était vraiment vraiment cool parce que c'était l'image que moi j'avais de vivre à l'étranger, c'était mélange de culture, apprendre ouais. des autres et pas forcément se limiter aux locaux, en fait vraiment de s'ouvrir à tout le monde, parce que Toronto c'est une ville qui est où il y a quand même la moitié de la population qui est pas née ici. Donc c'est
Ouais.
Et c'est vraiment tout le monde a... Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'en fait, nous en tant que Français, ou peut-être que c'est moi quand je suis arrivée, t'as un peu l'impression que t'es l'exception, parce que waouh, j'ai quitté mon pays, moi je suis là, là. Puis quand tu discutes avec les autres, tu te rends compte qu'en fait, ils ont tous à un moment donné ils ont quitté leur pays, parce que le Canada, il y a très très peu quand même de vrais, enfin 100% canadiens ou canadiens depuis plusieurs générations. Donc tu te remets ça remet tout en perspective et tu te remets en question. Tu te dis, en fait, oui, moi c'est bon, j'ai quitté mon pays, mais moi déjà je vis une immigration de luxe parce que j'ai choisi. et si j'ai envie d'entrer chez moi, mon pays il est safe quoi. Enfin, il y a pas de, on m'accueillera les, peut-être, voilà, on m'accueillera les bras ouverts. J'ai ma famille, j'ai tout le monde. Que certains, ça m'a fait redescendre. Enfin, je me rappelle une fois en particulier dans un Uber pool, donc le Uber que tu partages. Le gars il me disait que ses parents l'avaient envoyé ici parce que dans son pays ils avaient peur qu'il passe pas les 20 ans quoi.
Oh putain la vache.
Ouais, c'est dur hein. Moi quand il m'a dit ça j'étais waouh, et c'était il y a peut-être 3-4 ans hein, je le revois ouais. encore hein. Et je me suis dit en fait c'est vrai que ok c'est génial parce que ce qu'on fait on va pas, il faut pas minimiser non plus le voilà de se déraciner de chez soi pour aller vivre dans un autre pays tout ça. Mais il faut aussi se dire que je l'appelle toujours ça l'immigration de luxe, quoi. L'immigration de choix.
Ouais. Non, mais c'est ça, l'immigration choisie, c'est clair que c'est.
Ah, voilà.
Enfin, il y a personne qui est passé de chez toi. Ça change tout, quoi.
C'est sûr. Mais du coup, ouais, je suis arrivée, donc moi, j'ai trouvé l'appartement tout de suite. Et ensuite, j'ai trouvé. La semaine d'après, j'ai commencé à chercher du travail. Et j'ai trouvé un boulot, je crois, la semaine d'après. Où j'ai commencé quelques... Donc, de toute façon, je suis arrivée le 1er juillet, j'ai commencé à chercher le 6 juillet, je crois, 6 ou 7, et j'ai commencé mon boulot le 28. Donc,
Ah ouais, donc quasiment pile un mois après avoir quitté celui en France, quoi.
Voilà, c'est okay. ça. Donc, ça a été...
Tu cherchais quoi comme job? Tu cherchais un job en lien avec ta carrière et ce que tu avais fait avant?
Non.
Ou tu cherchais de quoi pouvoir un peu... découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas papillonner, pas du tout dans au sens péjoratif du terme, mais comme on le fait beaucoup en fait en PVT pour garder cette liberté qu'on cherche souvent dans le cadre de ces voyages.
Alors moi je voulais déjà une sécurité financière, je voulais un job pour rentrer de l'argent. Voilà, là moi ce qui m'intéressait c'était de pas trop de gratter sur mes économies et en fait il y a j'avais un copain qui était parti l'année d'avant à Londres et qui lui pour moi est voilà il est hyper intelligent, hyper qualifié et qui m'avait dit non mais moi je vais bosser chez Zara quoi au début et je m'étais dit mais en fait il a trop raison, c'est bien en fait parce que c'est comme ça que tu peux aussi découvrir la culture. Donc
perfectionner ton anglais même.
Ouais voilà parce qu'en fait c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on part c'est en PVT c'est ah mais moi j'ai pas envie d'avoir un boulot sous-qualifié, j'ai pas envie de redescendre de redescendre quelques échelons tout ça et c'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois quand j'ai quitté la France, enfin quand j'ai annoncé que je quittais la France et pour moi de voir que un de mes amis d'enfance qui était super qualifié pouvait aller chez Zara et ça a rien de péjoratif hein. C'est vraiment pas, je veux pas que ce soit interprété de manière péjorative, c'est juste que c'est un job que il aurait peut-être jamais imaginé faire parce que il était voilà, enfin. Et donc je me suis dit
ouais, c'était pas son aspiration première à la base.
Ouais, et en fait et je me suis dit bah c'est le moi aussi. Donc je suis allée postuler chez Zara. Je suis allée postuler dans plusieurs magasins. Et j'ai été contactée par deux magasins, un qui m'offrait un part-time, donc un mi-temps, l'autre qui m'offrait un full-time, plein temps. Donc j'ai pris le plein temps chez Massimo Dutti, qui fait partie du groupe Zara, hein, qui fait partie du groupe Inditex. J'ai passé 3 mois là-bas. Je me suis fait des copines, enfin des amis avec qui je suis toujours en contact. Un couple, une de mes amies qui est irlandaise, elle, qui était en PVT aussi. Et quand ils sont retournés en Irlande, ils se sont mariés l'année d'après. J'ai été invitée au mariage, donc j'y suis allée. Donc c'était vraiment. Ben en plus, et ça c'est avec le recul, hein, parce que c'était il y a presque 6 ans. Sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais c'était le meilleur moyen pour moi. Et c'est ce que je conseille à tout le monde aussi, de découvrir la culture sans me mettre de pression au travail, parce que j'avais pas de responsabilité comme j'avais pu avoir dans mes jobs précédents. Bien sûr, j'avais des responsabilités où je devais faire mon travail, hein, mais j'avais pas la pression en plus d'être dans mon domaine en fait. Là, j'apprenais tout, mais c'était normal parce que je redécouvrais un métier. C'était pas le mien.
Ouais, bien sûr. Bien sûr, et c'est en fait ce processus d'adaptation. D'ailleurs, c'est et dans son travail, mais du coup, et dans la découverte de ce nouveau pays, de cette nouvelle culture. Et c'est ce que tu me disais quand on préparait cet épisode, c'est que tu trouves que et c'est vrai, hein, on est tous un peu impatients, on a envie d'arriver, de se sentir chez nous, etc. Mais que voilà, les choses se font pas du jour au lendemain, et qu'il faut un peu apprendre à donner du temps au temps, quoi, si on peut dire.
Exactement. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on développe tous. En tout cas, pour réussir son immigration, c'est la patience, hein. Parce que ça prend du temps de s'intégrer, ça prend du temps, puis on va se tromper, hein, parce que je le dis souvent aux gens qui arrivent, je leur dis, dans 6 mois, les copains que vous avez aujourd'hui, vous les aurez, la moitié, vous les verrez plus. Parce qu'au début, on va aller vers des gens parce qu'on a besoin de contact. On a besoin d'avoir un cercle de copains, on a besoin de faire des choses, mais sauf qu'on connaît personne. Donc on va pas forcément se rapprocher parce qu'on a des centres d'intérêt communs, mais on va se rapprocher parce qu'on vit la même chose.
Et c'est vrai.
Et voilà, et au bout de quelques mois, on va se rendre compte que ouais, en fait, ben c'est cool, mais il y a plein de choses sur lesquelles on s'entend pas, puis on va rencontrer d'autres personnes. Donc c'est complètement différent, et il faut du temps. Moi, ça m'a pris énormément de temps d'avoir des vrais amis ici. Mais maintenant, ce qui est drôle, c'est que quand on en parlait encore il y a quelques jours avec un de mes meilleurs amis ici, c'est que par contre, à l'inverse, maintenant, nos amis en France, on les compte sur les doigts d'une main, quoi, demain. Mais vraiment.
Ah, ça, c'est clair.
Parce que toutes nos, bah, c'est quand même notre vie, la plupart de ma vie adulte, je l'ai passée ici, donc, quoi. Donc, ouais. C'est normal. Mais effectivement, ouais, non, c'est vrai qu'il faut vraiment, je suis contente d'avoir eu un job, où j'avais ce job et le job que j'ai eu après. Pendant 7 mois, c'était des jobs où quand j'avais fini à l'heure où j'avais terminé, je posais mes affaires et c'était terminé.
C'est ça, tu ramènes pas ton boulot à la maison.
Voilà.
La journée a une vraie fin, quoi.
C'est ça, que les boulots que j'ai eu après, ben non, il y a des, enfin pas tous, hein, mais parce qu'on est passionné après par ce qu'on fait aussi, et que ben la passion, elle s'arrête pas une fois qu'on est sorti du bureau, donc continue à mouliner dans le cerveau, quoi.
Non, c'est sûr. Ça a un côté très bénéfique, mais ça a un côté aussi, c'est pas facile. Des fois, on a besoin, quoi, de pouvoir fermer la porte et de dire, voilà, la journée de boulot est finie. Après, du coup, donc, ces 3 mois, tu embrayes, du coup, sur un deuxième job, tu dis, pendant 7 mois, tu pars dans quel domaine? Tu restes dans le même domaine?
Non. Alors là, du coup, mon objectif, c'était trouver un boulot où je travaillais pas le week-end, parce que bon, ici, les magasins sont ouverts tous les jours.
Ah.
Donc, en magasin.
Ouais, on en parlait.
Voilà. Je me retrouvais après le dimanche, à travailler jusqu'à fermer, donc on finissait à 22h. Moi, c'est des choses que je connaissais pas du tout.
Ah ouais.
Moi, je connaissais pas du tout. Et donc là, mon objectif, c'était d'avoir un job où je travaillais qu'en semaine pour avoir mes week-ends et aussi socialement pouvoir m'aligner sur les autres et pouvoir rencontrer plus de monde. Parce que c'est vrai que quand on a des horaires un peu décalés, c'est plus difficile. Et là, je me suis retrouvée dans l'informatique en IT en étant account manager, donc gestionnaire de compte. Comme j'avais mon expérience en vente terrain, et ça a quand même beaucoup aidé pour trouver du boulot. Et là, pendant 7 mois, j'étais gestionnaire de compte, mais on avait 6 mois de formation, dont les 6 premières semaines en classe à apprendre sur les produits. Donc pour moi, c'était vraiment 6 semaines de cours d'anglais en fait, de cours d'anglais payés, parce que j'étais dans une salle où tout le monde parlait anglais toute la journée, où on me formait sur des produits en anglais. Donc là, c'était, pour moi, c'était le combo gagnant, quoi. J'étais payée à apprendre l'anglais.
Génial. Trop bien.
Ah oui.
Ça s'est bien passé, ça t'a plu?
Bon, le job en lui-même.
Non, après, c'était sympa, pareil. J'ai rencontré des gens intéressants, mais c'était loin. J'étais contente parce que c'était mieux payé que là où j'étais avant. Donc, en fait, je me disais à chaque fois, allez, tu montes un échelon de plus. C'est pas où t'as envie d'être encore, mais on s'en rapproche.
Ouais. Bah, c'est clair, t'as raison.
Et au bout des 7 mois, par contre, c'était la fin de mon premier PVT, en fait.
D'accord. Donc, on arrive fin juin 2015, c'est ça?
Oui.
Donc, d'accord. Donc, adieu déchirant avec le Canada?
Alors, j'avais pris ma décision déjà depuis un petit moment. J'avais pris ma décision depuis mars, je crois. Et mon visa s'est terminé fin juin. Donc, fin mai, j'ai démissionné. Et je suis partie 2 semaines après aux États-Unis en road trip. Et là, c'est vrai que juste un peu avant de partir, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu pars? J'aurais eu l'occasion de demander un deuxième visa, parce que à ce moment-là, c'est l'année où la loi a changé. Donc, j'avais possibilité de demander un deuxième PVT. Mes copains qui étaient là l'ont fait. Et ils me disaient tous, mais fais-le au cas où, tu sais, on sait jamais, tente, et au pire. Et, moi, sûr de moi, hein. Non, j'ai décidé que je voulais rentrer, je rentre.
Pourquoi tu voulais rentrer alors?
Aujourd'hui, j'ai encore du mal à l'expliquer. Je pense que dans ma tête, je m'étais dit que je partais un an. Maintenant, je le sais. Maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis rentrée et c'était des éléments extérieurs, en fait, qui ont, je sais pourquoi j'étais en France à ce moment-là. Parce qu'il s'est passé des choses que j'aurais peut-être mal vécu, si j'avais été, ici, ou que j'avais pas été avec ma famille. Donc, je sais. Hein? Pourquoi on m'a poussé à rentrer, l'univers m'a poussé à rentrer. Mais non, à ce moment-là, je pense que juste j'avais pas trouvé ce que je voulais. J'avais amélioré mon anglais, mais professionnellement, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah, rentre en France et puis on verra.
D'accord.
Et on verra.
Comment se passe le retour en France du coup? Alors tu dis qu'il y a eu des événements familiaux peut-être pas forcément faciles. Et ton retour en France, on parle souvent du retour après une déconnexion totale à l'étranger, qui est pas toujours évident. Ça s'est bien passé pour toi ou pas?
Ça a été dur, en fait. Les deux premières semaines, c'est cool, tout le monde a envie de te voir. Mais après, en fait, les gens, ils ont appris à vivre sans toi, t'étais pas là pendant un an. Et c'est difficile de se rendre compte que en fait, le monde, il tourne sans toi, hein. C'est ton ego, il en prend un petit coup. Et puis surtout, tu te sens seul. Tu te sens seul parce qu'il y a personne qui partage ce que t'as partagé, que c'est quand même des moments forts, ce que tu as vécu. Et tu te retrouves à devoir t'ajuster à cette nouvelle vie. Puis, tu as toute la partie aussi administration. Moi, je me suis un peu battue avec le chômage. Voilà, je me suis retrouvée à aller demander le RSA. Enfin, ça a été quand même dur psychologiquement de te dire... je rentre, mais j'ai plus rien. Et je me suis retrouvée du coup à aller emballer des pains au lait chez Pasquier, qui a une usine à côté de chez nous, parce que les boîtes d'intérim ne voulaient pas me faire travailler. On me disait non, avec votre profil on peut pas vous trouver du boulot. Je leur disais non, moi je m'en fous, je veux aller à l'usine, je veux juste retrouver un cadre professionnel pour avoir des horaires et faire rentrer de l'argent, parce que sinon je pourrais pas, enfin si je fais pas rentrer de l'argent, je peux pas retrouver un travail dans mon domaine.
Ah oui.
Pour aller. Donc ça a été, je me suis battue, ça a été un peu dur quand même, parce que ouais, psychologiquement de te réaligner à tout ça.
Bien
et
sûr.
Donc je suis rentrée le 30 juin. Mm-hmm. J'ai commencé à travailler en septembre, j'ai passé l'été à la maison. En plus bon, dans le sud-est de la France, on est pas mal. Et sous le soleil, et en septembre, j'ai été pendant un mois chez Pasquier. Ensuite, j'ai été assistante export, donc c'était marrant parce que c'était plusieurs personnes comme moi qui rentraient de PVT. Okay. Ils cherchaient à parler anglais, donc on correspondait au profil. Et en décembre, le nouveau PVT ouvrait, enfin les demandes pour le prochain PVT ouvraient, et je me suis dit ok, t'as rien à perdre, postule, si jamais t'es supposé repartir, t'auras un signe, sinon bah au moins t'en auras t'auras la réponse. Et j'ai eu la réponse, hein, parce que c'était des tours chaque semaine entre janvier et juillet. Il tire au sort quelques personnes. Ça a ouvert, je crois, peut-être le 15 ou le 16 janvier. Mm-hmm. J'ai été au sort la deuxième tournée, quoi.
T'as génial.
Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, l'univers, il peut pas faire plus clair, hein. Il veut pas t'envoyer des signes. Donc, j'ai fait tous mes papiers, j'ai tout fait. Et j'ai eu les réponses. Ça a été un peu plus long parce que je crois que j'ai eu... C'était peut-être début février et j'ai eu la réponse mi-mars. Et par contre, là, à ce moment-là, j'ai rien dit à personne. Vraiment à mes très proches, à ma famille, mais vraiment dans un cercle très, très proche. J'ai rien dit à personne parce que j'avais commencé un nouveau job en plus. Et j'ai rien dit jusqu'au mois de décembre. Et après, je suis partie le 23.
Ah oui, t'as pris le temps. Vache.
Oui, oui. Parce qu'en fait, on a un an. Quand on a le visa, on a un an pour partir. Donc, d'accord. Je savais qu'avant avant le 14 ou le 12 mars 2017, il fallait que je sois repartie. Je suis repartie le 23 février parce que j'avais lancé pas mal de projets avec le blog sur Valence et que je voulais me donner une chance de faire tout ça. Donc, je voulais pas repartir tout de suite. Puis financièrement, j'avais pas prévu non plus. Donc, il fallait quand même se refaire une santé. Et donc, j'ai annoncé, j'avais fait des petites vidéos sous forme de calendrier de l'Avent sur ma page Facebook à ce moment-là, sur le blog. Et, j'ai annoncé, bah voilà, je repars vivre au Canada. Et là, à ce moment-là, les gens autour de moi, ils m'ont dit, mais en fait, tu reviendras plus maintenant. Enfin, on le sait. On le sait.
C'est vrai? Ah ouais? Toi, tu pensais quoi? Enfin, ils le savaient avant toi, tu penses?
Ouais, oui, oui, je pense que. Mais de toute façon, tout le monde, même autour de moi, il y en a qui m'ont dit, on savait que t'allais repartir.
Ça, c'est dingue.
Mais même, je me rappelle que ma mère m'a dit, si t'es plus heureuse là-bas, enfin, si t'es heureuse là-bas, retourne-y, quoi. Et je sais que ça doit pas être simple pour une maman de dire ça, hein, mais c'était. Mais en fait, ça, c'est quelque chose aussi que, où je le dis, hein, souvent, mais, ma famille m'a pas du tout mis de pression quand j'ai voulu partir. Je sais qu'il y en a qui souffrent de ça, que, la famille les fait un peu culpabiliser, ou, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, c'est que autour de moi, tout le monde a été vraiment... Alors, je sais qu'ils ont eu leurs angoisses et j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois. Enfin, ma sœur a commenté une vidéo YouTube où on m'interviewait. et elle a répondu, en fait, que oui, elle, ça avait été... Parce qu'elle a 6 ans de moins que moi et que ça avait été plus dur pour elle parce que bon, elle avait 20 ans. Donc, j'imagine que ça peut être un peu déstabilisant. Mais personne ne m'a partagé ses angoisses, en fait. Mais je suis tellement reconnaissante.
Ouais, c'est clair. Non. C'est clair. T'es pas partie avec ce sentiment de culpabilité que beaucoup de gens expérimentent et qui est difficile, quoi. La culpabilité, c'est jamais facile de vivre avec. D'accord.
Donc voilà, donc me voilà, je fais mon année à Valence, mon année 2016 à Valence. Mm-hmm. J'en profite, j'organise, je crée une communauté de, enfin, même fin 2015, je crée une communauté de running pour filles à Valence. J'organise un gros vide dressing, j'organise des événements pour les assistants anglais, italiens, tout ça, qui venaient dans les lycées pour qu'ils puissent rencontrer les locaux. Mm-hmm. On a fait plein de choses. J'ai rencontré certaines de mes meilleures potes maintenant. Il y a plein de choses qui font que je sais pourquoi je suis rentrée. En tout cas, tout a du sens. Et, du coup, fin février 2017, je suis repartie à Toronto. Et la veille, je me suis dit, tu t'es mis en tête de repartir, tout ça, ok. Mais est-ce que t'as pas idéalisé tout ça? Est-ce que tu t'es pas mis en tête mieux là-bas? Mais bon, ça a pas duré longtemps. C'était, franchement, je pense que c'était juste la veille ou peut-être 2 jours avant. Mais à peine j'avais mis les pieds ici, je savais que j'étais revenue pour une bonne raison.
T'étais revenue à la maison, quoi.
Ouais, ouais. C'est vraiment drôle parce que quand je pars en France en vacances, je dis que je rentre chez moi. Et quand je pars de France, je reviens ici, je dis toujours que je rentre chez moi. Mais je pense que c'est, enfin, quand on te sent bien quelque part, ça doit sûrement être la même chose pour toi, mais.
C'est clair.
C'est marrant comme et puis même si on décidait de rentrer en France, ce qui est pas du tout à l'ordre du jour, je me dis que ça sera plus jamais 100% chez moi.
Ouais, t'as vécu, comme tu le dis, une grande partie de ta vie d'adulte ailleurs, avec des repères complètement différents, et non, c'est sûr.
Ouais.
C'est dingue. Donc, du coup, te revoilà à Toronto. T'as jamais envisagé que ce soit une autre ville d'ailleurs? Quand tu t'es dit Canada, j'y retourne, quoi. Je retourne dans le même endroit.
Oh, oui, je rentre chez moi, quoi.
D'accord. T'étais pas retourné en vacances ou quoi que ce soit pendant un an et demi entre les deux? Ok. Non. Bon, alors du coup, te revoilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le programme? Comment ça se passe? Tu retrouves ton cercle amical? Au niveau boulot, qu'est-ce que tu fais?
On sait pas trop comment on va retrouver ses potes et tout ça. On sait pas trop. C'est quand même passé un an et demi.
Ah ouais, ça.
Ouais, non, donc, je suis toujours, aujourd'hui, je suis toujours pote avec certains des copains de la première année, mais bon, il y en a plein qui sont partis aussi. Donc, on n'est plus très, très nombreux de la promo 2014. Par contre, j'ai fait la même chose, hein, j'ai trouvé du boulot hyper vite. On a voyagé, j'ai des amis qui étaient venus avec moi, donc on a fait New York. Après, je suis revenue ici toute seule, et je crois que je suis revenue le 9 mars, donc c'était un jeudi. Et le lundi, mardi, je
postule. C'est bien, hein?
Ouais, non, ouais, le jeudi, on est revenu. Lundi, mardi, je postule à fond. Et le vendredi, j'avais un boulot, quoi. Je commençais un mois après. Donc, encore assez rapide. Et c'était une boîte de marketing. Mais bon, marketing comme voilà à la nord-américaine, hein, donc ça englobe un peu tout. Et je devais passer des coups de fil toute la journée au Québec pour décrocher des rendez-vous pour un client qui, en fait, si les personnes étaient OK pour avoir un rendez-vous, les commerciaux de notre client pouvaient les appeler. Mmh. Moi, j'étais à la commission en plus, donc j'arrivais quand même à sortir des bons salaires. Enfin, des salaires qui étaient décents, quoi, pour la vie, en plus, il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Bien moins cher que maintenant. Et j'ai fait ça pendant 6 mois avant de me faire licencier. Ouais. Parce que le contrat n'était pas renouvelé par le client. Donc, l'agence n'avait plus de raison de me garder. Voilà, donc ils m'ont licencié. Je le dis hyper tranquillement maintenant, mais j'étais en panique. Hein.
J'étais...
Le lundi, ils ont prévenu, ils ont licencié mon collègue qui était sur le même projet que moi. Okay. Moi, comme je savais qu'il y avait personne d'autre qui parlait français, je me disais, ah, c'est bon, je suis à l'abri. Et moi, c'est arrivé, ils ont essayé de me trouver, enfin voilà, ils m'ont fait patienter 2-3 jours et le jeudi, j'avais plus de boulot.
Est-ce que c'est le droit du travail du coup au Canada, c'est comment par rapport, je sais qu'aux États-Unis, tu vois, on est dans le système at will, c'est-à-dire que si on te dit que c'est fini, bah c'est fini tout de suite. comment ça se passe au Canada? Est-ce que tu as une sorte de même si tu es licencié, même si on te dit c'est fini, t'es encore 15 jours?
Alors moi, eux, ils m'avaient demandé de rester un peu. Moi, j'ai négocié pour pas rester. Mon deuxième licenciement l'année dernière, ça a pris effet immédiat. Fallait être accompagné à l'ascenseur, quoi. Et bon, on était 8 et le même jour, donc...
D'accord.
Voilà, non, mais par contre, t'as 2 semaines normalement, mais après, ça dépend encore l'industrie, ça dépend... mais généralement, t'arrives à quand même avoir tes 2 semaines. Mais souvent, tu les fais pas, ils te les payent, en fait. Après, ça dépend de l'industrie, ça dépend des contrats. Moi, à chaque fois, j'étais en contrat, ce qu'on appelle le permanent, donc l'équivalent du CDI, qui offre beaucoup moins d'avantages que le CDI. Avantages ou inconvénients, hein, suivant le point de vue, mais on était... oui, parce que tu peux te faire licencier de la même façon et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une raison très... Voilà, c'est restructuration. voilà, ça, c'est... Voilà. Donc, j'ai été licenciée. À cette époque-là, il y avait 15 jours pour avoir le chômage. Mais moi, c'était même pas imaginable pour moi de ne pas travailler. Je pense que... on peut ressentir déjà que j'ai un très gros besoin de travailler et surtout d'assurer ma santé financière, disons.
Et puis, sans être résidente permanente, en plus, t'es éligible au chômage?
Ouais. T'as un travail ouvert. Tu peux travailler. Donc, ce que je ne savais pas aussi à ce moment-là, donc j'ai fait les recherches. Tu peux travailler, oui, t'as le droit au chômage et que t'as accumulé assez d'heures.
Ah, génial. OK.
Ouais, donc je savais que j'allais pouvoir... en plus, je ne maîtrisais pas à ce moment-là. Ça faisait 6 mois que j'étais revenue. Je maîtrisais pas du tout, alors que là, l'année dernière, quand je me suis fait licencier, bon, moi, j'ai fait les choses dans l'ordre. Mais à ce moment-là, j'étais plus paniquée par pas avoir les ressources pour payer mon loyer que de m'inscrire au chômage et d'attendre, quoi. Parce que les Canadiens, ils sont très, très relax par rapport à ça. Ma coloc était canadienne à ce moment-là et elle me disait « Mais c'est pas grave, tu vas pouvoir te reposer, prendre du temps pour toi. » Moi, j'étais en panique. J'étais là « Non, attends, je m'en fous du temps pour moi, là. Moi, je veux de l'argent pour payer mes factures. » Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé partout et en fait au bout de 2 semaines j'ai commencé un autre boulot en call center. C'est l'avantage d'être aussi au Canada et en particulier dans une ville anglophone, c'est que dans les call centers ont souvent besoin de francophones pour gérer les relations au Québec, donc c'est quand même plutôt pas facile, mais c'est accessible en tout cas. Et donc j'ai trouvé un boulot et après j'ai trouvé un boulot chez Page Jaune. Donc j'ai passé 3 semaines à la banque en call center. Donc par contre hyper cool parce que pareil, formation, j'ai appris plein de choses sur le côté financier canadien que je connaissais pas. À chaque fois, moi j'ai trouvé même dans les jobs où j'avais pas forcément d'intérêt, j'ai toujours trouvé quelque chose de cool à apprendre.
C'est génial.
Ouais, voilà, non, c'était cool, 3 semaines, c'était pas très loin de chez moi. C'est au moment où j'ai arrêté du coup de prendre les transports, ce qui est une bonne chose parce que les transports à Toronto, ils sont chers et ils sont pas très efficaces.
Ah, d'accord.
Ce qui est dommage pour une grande ville comme ça, mais...
Ouais, c'est clair.
Et ensuite, j'ai travaillé chez Page Jeune. Et quand j'étais chez Page Jeune, là, j'ai eu des contacts. On est venu une personne de la que je connaissais dans la communauté française qui savait ce que je faisais par rapport à mon blog, par rapport aux réseaux sociaux, et qui m'a proposé un job. Et là, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. J'ai rejoint du coup les équipes de sport de Toronto, donc NBA, les Raptors, tout ça, sur la partie lifestyle. Ouais, mais c'était vraiment. J'ai passé un an et demi. Autant Vuurt en France, c'est ma meilleure expérience en France. Ça, c'est ma meilleure expérience au Canada, quoi. C'est vraiment là, j'ai vraiment touché de la culture canadienne. J'étais au cœur de la culture canadienne. C'est là où je me suis fait mes meilleures amies canadiennes aussi. Et donc ça a été, j'étais une des seules francophones, une des seules européennes. J'ai vécu l'année dernière j'étais sur la partie en fait, ce qu'ils appellent lifestyle, c'était magasin et restaurant. Donc je m'occupais au départ des réseaux sociaux et après quelques mois, enfin c'était réseaux sociaux et production de contenu. Et au bout de quelques mois, je me suis vraiment spécialisée seulement dans c'est déjà un gros job, mais dans la production de contenu. Donc je gérais les photoshoots, je travaillais avec des photographes, avec des graphistes, avec des modèles. Je travaillais avec le retail et avec le food and beverage, quoi, donc les restos. On a plusieurs restos dans le stade, à l'extérieur du stade. Les magasins qui sont la boutique officielle dans le stade. Donc c'est un monde moi que je connaissais pas du tout le sport. Quand j'ai appelé mon frère qui est plus sportif que moi, c'est pas très difficile, pour lui dire oui, j'ai décroché un job, je vais travailler avec des équipes de sport de Toronto, il m'a dit mais c'est une blague. on s'adore avec mon frère, mais il m'a dit et bon après voilà, c'est j'avais des compétences que eux recherchaient, mais ça a été pour moi déjà pendant un an et demi j'ai parlé anglais tout le temps, on parlait pas français. Et ensuite, j'étais au cœur de la culture parce que c'était des Canadiens avec moi. Donc, je leur posais des questions. Je leur disais, mais pourquoi ça se fait comme ça? Mais pourquoi c'est comme si? Et en anglais, pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu dis pas comme ça?
Ah, la richesse du truc, c'est génial.
Ouais. D'ailleurs, j'ai aussi rencontré mon chéri là-bas. Donc, Donc, c'est ça aussi, ça a été tous ces gens-là, parce qu'on était toute la même équipe. Enfin, je leur ai dit, j'étais licenciée. Donc, on a été 8 à être licenciés fin juin. Et ça me fait plaisir parce que quelques semaines avant, j'avais eu l'occasion de leur dire, de les remercier en fait, et sans savoir que j'allais être licenciée, hein, mais de leur dire qu'ils avaient eu un gros impact dans mon expérience canadienne parce que j'avais appris énormément à leur côté et que j'étais assez à l'aise avec eux pour toujours me sentir bien en posant des questions et en leur partageant ma culture aussi. Donc ça a été la grosse expérience et aussi le gros choc quand on a été licenciée, hein. Le 27 juin.
Ah ouais, d'accord.
Deux semaines après qu'on ait gagné le championnat de NBA, que Toronto a gagné, parce que j'ai vécu ça aussi, hein. Ça, c'est vraiment un truc mémorable. Je pense que je m'en rappellerai toute ma vie. On a été t'as appelé chez les RH et puis, on te dit restructuration, on est désolé, tiens, c'est les papiers, t'as une semaine pour les signer. Si t'as besoin de quelque chose, on est là. Non, on va te raccompagner à l'ascenseur. Tu veux qu'on t'appelle un taxi? pardon, attendez.
Mais qu'est-ce qui se passe? Quand même. C'est un peu comme dans les films. Hein.
Ah, mais c'est complètement comme dans les films. Hein. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. J'ai mis un mois et demi avant d'en parler sur mes réseaux sociaux où je partage pourtant énormément de choses. Et j'ai pas mal vécu. Hein. Pas du tout comme la première fois. Alors que là, j'avais quand même... J'habite toute seule depuis ça fait à faire 2 ans au mois de mai, donc mes charges sont pas les mêmes que la première fois que je me suis fait licencier parce que j'étais en coloc. Mais ma vision des choses, c'est encore une fois, c'est ok, c'est l'univers qui m'envoie un message. Ça fait un moment que tu parles d'être en freelance à plein temps, que tu oses pas te lancer, que tu refuses des opportunités parce que tu as un boulot à plein temps qui est très prenant. Là c'est l'univers qui te dit, tu sais quoi, en fait, t'étais prête, tu le savais pas, mais tiens, je vais mettre un coup de pied aux fesses et puis tu n'as plus le choix maintenant. Alors j'avais le choix, j'aurais pu retourner et rechercher un boulot en entreprise, hein. Mais 2 heures après, j'ai dit à ma collègue qui était avec qui on a commencé ensemble, on a fini ensemble ce job, je lui ai dit mais tu sais quoi, je lui ai dit mais en fait je vais pas du tout rechercher un boulot à plein temps, quoi. Enfin, non. Et donc, j'ai pris l'été pour y réfléchir.
Après, tu savais quoi? C'est dingue.
Ouais.
Donc, en fait, ça mijotait dans ta tête depuis un bout de temps, en fait. Mais tu lui laissais pas trop la place pour émerger, c'est cette ça. Idée. Ouais.
En fait, parce que autour de moi, tout le monde m'a dit oui, bah, de toute façon, tu vas aller en freelance maintenant, c'est sûr. Parce que je faisais déjà des missions à droite à gauche, mais rien de très structuré. On venait me chercher, parce qu'aussi, je suis la seule blogueuse francophone à Toronto. Donc, j'ai eu des opportunités. Voilà, ça c'est même en France. Enfin bon, ça s'est fait tout seul. J'ai laissé passer le week-end parce que c'était le week-end du 1er juillet, donc le long week-end, c'est le week-end du
anniversaire au Canada.
Voilà, mon anniversaire au Canada. Bon anniversaire pour 5 ans. Mais en fait, finalement, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire. Hein. Il fallait juste que quelqu'un d'autre prenne la décision pour moi. Et le gros avantage aussi, c'est quand même que en étant licencié, t'as droit au chômage. Qu'en démissionnant, j'aurais pas eu droit. Ouais. Qu'en étant licenciée, j'ai eu droit à un package que j'aurais pas eu si j'avais démissionné. Donc tout, enfin voilà, encore une fois, je crois beaucoup au signe. Hein, je pense que tu l'as compris. Et donc pour moi, c'était juste le signe que ça devait se passer comme ça. Donc je me suis dit, ok, et ben on va faire ça. Donc après, ça a pas été simple dans le sens où on va dire que c'est de décider de passer du statut de salarié à freelance, donc entrepreneur, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça se restructure en fait. Parce que là, ça va faire un an, ça fera un an le 27 juin. Mais je suis déjà passée par tellement d'étapes. Entre les recherches pour savoir à quoi t'as droit en tant qu'entrepreneur, pour savoir, pour le démarchage. Et là aussi, je me suis dit en fait que toutes les expériences que j'ai eues sur les 10 dernières années, elles m'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Parce que d'avoir été commercial, ça me permet aujourd'hui de savoir gérer mes relations avec mes clients, de savoir faire du démarchage. Pour beaucoup de freelance, c'est quand même des sujets qui sont un peu touchy parce que t'as, voilà. Donc d'ailleurs, c'était un sujet que je vais essayer de développer pour aider les autres freelance ici. Mais en fait, il a fallu aussi que je mette toutes mes idées sur un papier. Donc j'ai fait des listes avec tout ce que je voulais faire, mais ça pouvait passer de organiser les workshops, donc ce que je fais depuis septembre, à réparer ton appareil photo qui est cassé, quoi. Enfin, j'ai tout noté, toutes les choses que j'avais jamais eu le temps de faire, que voilà, j'avais tout noté, et je rayais au fur et à mesure en me disant, ok, bah tu vas prendre du temps pour toi aussi. J'ai passé l'été comme ça. Je m'étais dit en juillet, je me suis dit, ok, septembre, tu organiseras ton premier workshop, c'est l'objectif. Mm-hmm. Et j'ai organisé mon premier workshop le 16 septembre, qui était complet. Génial. J'avais 12 ou 14 semaines, je sais plus, ouais.
Qu'est-ce que tu proposes dans tes workshops? Enfin, quand t'en parles, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste?
Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu en français, parce qu'on manque de contenu en français à Toronto, pour aider les gens qui sont comme moi, qui sont immigrés ici, et sur différents sujets. Donc, ça peut passer par l'intégration. Donc, j'en ai fait un où c'était vraiment le basique de quand tu arrives ici. Le guide du nouvel arrivant, mais celui que j'ai fait le 16 septembre, c'était le développer son réseau, comment développer son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels. Donc c'était vraiment pour maîtriser les codes de canadien ou enfin de l'Amérique du Nord, parce que c'est le réseau, c'est beaucoup plus important, ça a beaucoup plus de valeur en tout cas que ce que ça peut avoir en France. Enfin, même si en France, moi, en grandissant dans un village, le réseau est hyper important parce qu'on se connaît tous. Mais du coup, voilà, partager des idées comme ça. Et en fait, quand j'ai fait le premier, j'ai été repérée par un organisme francophone ici qui m'a proposé d'en animer avec eux. Donc, j'en anime aussi pour leur compte en interne pour les francophones. Ouais, c'est génial aussi parce que ça m'ouvre sur un public qui est différent, qui est pas forcément le mien. Donc moi, ça me permet aussi de me mettre dans d'autres positions, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, le blog, il va avoir 6 ans. J'avais pas encore passé l'étape. J'étais entre les deux où je pouvais pas en vivre, parce que j'ai jamais voulu vivre de mon blog. De toute façon, l'idée, c'est pas de vivre de mes réseaux sociaux, de mon blog. C'est vraiment de vivre ce que j'ai appris ou de ce que j'ai construit avec. Mais mes plateformes, c'est pas un espace publicitaire pour moi, par exemple. Voilà, mais c'est après, et je dénigre pas les personnes qui le font, mais mon raisonnement à moi, c'est que j'ai pas envie d'être obligée, pas que j'en ai forcément l'opportunité, hein, mais j'ai pas envie que mes réseaux sociaux que ce soit mon seul canal de revenu et que je sois obligée de poster des choses parce qu'il me faut, il faut que je rende de l'argent. Je sais pas si c'est clair.
Oui, je comprends.
Mais voilà. Et puis en plus, j'adore travailler. Enfin, j'adore organiser, préparer mes workshops. J'adore aller dans les événements parce que du coup, je fais beaucoup plus d'événements maintenant, pour rencontrer du monde, pour pitcher ce que je fais, pour leur montrer la valeur de ce que j'ai créé aussi, parce que j'ai créé une belle communauté sur Toronto. Enfin, je veux dire, les messages que je reçois, c'est hyper touchant. Les gens, ils me partagent vraiment des choses personnelles, leur parcours dans leur visa. Enfin, voilà, il y a quand même, on a créé quelque chose de super beau tous ensemble. Ouais. Et d'avoir l'occasion de travailler avec des organismes francophones, ça, pour moi, c'est un peu aussi,
c'est une grande reconnaissance aussi.
Voilà, c'est ça. C'est de se dire, ouais, ben, en fait, tout ce que j'ai fait, c'était pas seulement poster des photos sur Instagram. C'est vraiment, j'ai vraiment créé quelque chose qui a de la valeur aussi pour les autres.
C'est clair. On peut revenir d'ailleurs sur même toute ton intégration et tout. Je voulais revenir donc sur ton apprentissage de la langue anglaise. Tu disais donc la toute première fois où tu as débarqué au Canada, où voilà, c'était pas forcément évident. Tu as partagé une anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Tu peux me parler de l'histoire de ta sauce aux poires pour tes frites?
Donc ça, c'était en plus dans les trois premiers mois, parce que c'était mon premier job. Il faut savoir que les six premiers mois, j'ai mangé tout et n'importe quoi. Donc, je vais au KFC, je commande à manger, et en fait, la dame me propose de la sauce. Il faut savoir aussi que à Toronto, vu qu'on est tous d'ailleurs, on a tous des accents. Donc, entre, je sais plus si elle avait un accent, mais entre mon accent, en tout cas, je ne sais pas comment on se débrouille, mais je me retrouve avec une sauce. Elle me propose une sauce pour mes frites. Moi, je dis oui, parce qu'en plus, t'as de la pression, t'as du monde derrière. Enfin, voilà.
On se fait poser de questions.
Une sauce à la poire. Je me dis, mais une sauce
c'est
à la poire.
Ça.
Bah, apparemment, KFC. Mais c'était super bon. Mais par contre, après, comme je savais pas comment ça s'appelait, mais j'arrivais plus à le recommander. Parce que je me suis dit, mais tu vas le recommander, c'était bon. Et non, en fait, finalement, c'était bon, hein. Mais alors, moi, je me trouvais, mais il y a des fois aussi où je disais oui au serveur quand on me proposait des trucs à boire. Je bois pas d'alcool. Donc, la seule chose, c'est que je voulais pas que ce soit de l'alcool. Mmh. Mais je disais oui, bah oui, mais dis-moi, parce que je me retrouvais à boire des trucs, je savais pas du tout ce que c'était. Et je me rappelle, il était sûr que tu veux ça? Et lui, il était là depuis plus longtemps que moi. Je lui dis, non, je sais pas, est-ce que je veux ça? Il m'a dit, non, mais c'est hyper épicé et tout. Ah non, je veux pas ça.
Ouais, mais c'est comme ça qu'on découvre des nouvelles choses, c'est super. Enfin, je trouve en fait ce qui est génial, donc c'est que ouais, tu suis les signes, comme tu dis, de l'univers, tu y crois et tu vois un peu comme ça où est-ce que ça t'amène et c'est génial. Mais en même temps, je trouve que t'as clairement pas froid aux yeux, quoi. Enfin, tu vois, t'es arrivé dans un nouveau pays, tu parlais pas vraiment anglais. Tu peux me parler de ta manière d'apprendre l'anglais justement pour perfectionner ton anglais, notamment dans le métro?
Mais je parle à tout le monde. Je parlais aux gens de la rue, je parlais aux gens qui attendaient sur les quais de métro. Je me rappelle, j'ai rencontré une fille. Tu m'avais invité à une soirée étudiante, d'ailleurs. Moi, c'était pas ce que je recherchais, mais elle m'avait dit, non, mais faut que tu viennes. Mais attends, mais d'ailleurs, ma plus vieille amie ici, on s'est rencontrés dans l'avion quand j'ai déménagé, hein. Et ce qui est drôle, non, mais alors elle, et quand je suis partie de France, une de mes super bonnes amies maintenant, qui va probablement écouter ça d'ailleurs, qui a repris mon appart après moi, on s'est rencontrés sur le Bon Coin.
Elle
est venue visiter l'appart. Elle est restée une heure et demie. Et depuis, d'ailleurs, j'étais invitée à son mariage, bon, malheureusement, ce mois-ci. Et donc, j'ai rencontré, une de mes super amies, c'est elle, qui est mariée et maintenant qui a deux enfants. Elle en avait qu'un à l'époque et le petit est venu me parler quand on a eu le stop à Montréal d'une heure. On a sympathisé et quand elle a su que ce que je faisais, elle m'a dit, mais tu déménages toute seule? Mais pourquoi? Elle prend mon numéro.
C'est adorable.
Ouais. Et en fait, elle m'a donné son numéro. Elle m'a dit, quand t'as un numéro canadien, tu m'écris. Et après, elle m'a suivi jusque, j'ai récupéré ma valise. Elle me dit, c'est bon, tu sais où tu vas, hein? Je lui dis, oui, t'inquiète. Et, quelques jours après, je lui ai écrit, on s'est vus. Et, elle m'a invité à l'anniversaire de son fils. C'était juillet. Le Noël d'après, je l'ai fêté avec elle. Donc, je connais toute la famille. Enfin, maintenant, voilà, j'ai fêté Thanksgiving avec eux. C'est ma famille canadienne, quoi. C'est vraiment les petits réclament. Mais Astrid, quand c'est qu'elle va faire des crêpes?
C'est génial. Et comme quoi, on dit que c'est, donc tu dis, effectivement, c'est vrai, c'est pas facile de se faire son réseau tout de suite, de s'adapter, de rencontrer du monde. Mais en même temps, les rencontres que t'as faites sont hyper, les liens sont hyper profonds, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont hyper solides.
Ouais, voilà. Bah après, moi, je suis aussi très, très sociable.
J'ai toujours été, même petite, j'en parlais dans mes stories sur Instagram il y a quelques, je crois qu'il y a une semaine, ma mère répondait. oui, il y avait toujours du monde à la maison. oui, j'ai toujours été, on est trois enfants, et je suis la plus sociable des trois. C'est vraiment, je tiens vraiment, vraiment de mon grand-père, je crois, qui était chef d'entreprise et qui a 88 ans, maintenant un iPhone et parle à Siri. Et quand je l'ai vu, il est très, très connecté. J'ai toujours été entourée, en fait, aussi du rapport client parce que j'ai grandi dans une famille d'artisans. Ouais. Donc, tout ça, mon père m'a toujours expliqué que c'était important aussi d'avoir des gens dans chaque corps de métier. Parce que pas seulement pour toi, mais pour recommander aux autres et pour aider tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi ça en grandissant et je me disais, mon réseau, il est assez vaste. Et comme j'aime plein de choses différentes, j'ai des gens dans plein de domaines différents. Ça m'a permis de rencontrer parce que j'avais pas peur de parler aux gens. Parce qu'il y a plein de gens qui auraient dit, OK, elle m'a donné son numéro, mais je vais pas lui écrire. Tu sais, je la connais pas, je l'ai vue 10 minutes dans l'avion, n'importe quoi. Elle m'a invitée la semaine d'après pour l'anniversaire de son fils, mais il y a pas beaucoup. Il y en a plein qui auraient dit non, mais j'y vais pas. Et en fait, à chaque fois, j'ai pris toutes les occasions. Et c'est marrant parce que toute la famille me connaît chez eux. Le grand-père est espagnol et la grand-mère est mexicaine. Donc en plus, ça parle espagnol, moi, ça me fait pratiquer un peu. Mais c'est surtout que les amis des grands-parents m'appellent Frenchie. Oh yeah, Frenchie.
C'est adorable.
De toute façon, je crois que c'est le surnom qu'on a tous dans les familles anglophones, mais c'est marrant parce qu'ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à se rappeler toujours de mon prénom, entre toi et moi, les prénoms, oui, on n'a pas les prénoms les plus simples du monde, mais
non, puis même dans l'autre sens, ça marche aussi, hein, tu vois. Moi, mon mari s'appelle Mike, mon grand-père qui a 90 ans, je l'ai encore eu au téléphone il y a deux jours, il l'appelle John de temps en temps, tu vois. Il sait que c'est un prénom américain, mais il ne sait pas. Jim, John, Mike. Il l'aime bien, hein, il s'entend très bien, mais le prénom américain, c'est pas facile.
Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est culturel, encore une fois, c'est que c'est pas des prénoms qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais.
C'est clair.
C'est très drôle. Alors, franchement, s'il y a bien une chose à retenir aussi dans toute cette histoire d'expatriation, c'est le nombre de fois où on se marre quand même. Parce qu'il y a des situations où on se retrouve à pas comprendre ou à avoir des contresens. Bah, surtout, on le sait en étant... Bon, toi, ça fait longtemps que t'es en couple avec un anglophone, mais il y a des situations où tu te regardes et tu te dis « j'ai aucune idée de ce que tu racontes ». je ne sais pas. On en a parlé justement parce que là je viens d'écrire un article sur les relations justement entre anglophones et francophones. Et c'est vrai qu'il y a, il y a des fois où justement il me disait ben non, je suis obligée d'adapter ma communication et mon vocabulaire parce que tu parles pas tout l'argot, enfin le slang canadien. Donc non, c'est vrai qu'on se marre même avec nos amis. De toute façon, je dis toujours, hein, les amis que j'ai eus au début, c'est des vrais amis, hein. Parce que s'ils sont toujours avec moi aujourd'hui quand j'alignais trois mots d'anglais,
c'est clair.
C'est quand même qu'on était fait pour être potes aussi. Hein.
C'est clair. Là, c'est génial. Mais écoute, c'est génial. En tout cas, ton histoire, moi, je trouve qu'elle donne énormément, d'abord, le sourire. Et en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin. Elle donne vraiment la patate. Elle donne envie vraiment de se bouger, quoi. Que quand t'as une petite idée au fond de ta tête, que tu continue à balancer plein de trucs dessus pour pas y penser en disant que c'est pas possible, et bah dans ces moments-là il faut penser à l'histoire d'Astrid et suivre ses idées.
Ouais. Voilà, ce que je dis toujours, c'est que moi je n'avais pas des grands plans genre avec des objectifs chaque année ou quoi, mais je savais à peu près où je voulais aller, je savais comment, en fait, j'arrivais à visualiser à peu près à quoi ça allait ressembler. Par contre, je savais pas combien de temps ça allait prendre, je savais pas toutes les étapes que ça allait prendre. Mais aujourd'hui, je sais que l'objectif que j'avais, c'est d'être indépendante. Aujourd'hui, je le suis. À partir entre il y a quelques semaines et dans quelques semaines, je vais être complètement indépendante financièrement. Mais ça, c'est des sujets qui sont moins tabous, l'argent en Amérique du Nord qu'en France. Donc, mais c'est une grosse étape pour moi aussi. Voilà, en tant qu'entrepreneur, bah ça prend du temps, hein. C'est encore une fois la patience, parce que moi, en mois de juillet, tu me posais la question, dans 3 mois, t'inquiète, je suis autonome financièrement. Non, on me disait peut-être que 3 mois, c'est un peu ambitieux, et moi, non. Voilà, ça aura pris quelques mois, mais voilà, c'est il faut pas perdre de, en fait, il faut être prêt à pas être prêt, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer qu'on n'aura pas anticipé, et on me pose souvent la question de savoir quels étaient mes objectifs quand je suis venue. Et à chaque fois, je dis que j'en avais pas particulièrement. Parce qu'en fait, si on se met trop d'objectifs, on va aussi seulement se diriger vers eux et se fermer la porte à ce qui se passe autour.
Non, c'est vrai.
Alors que quand on a une idée, une conception en tout cas de ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas des trucs écrits et gravés dans la roche, on va plus être à l'écoute des opportunités, de se dire oui, bah en fait ça c'est vrai. Parce que ça, c'est souvent ça a été ah bah oui cette opportunité là, ah bah c'est vrai que ça va m'aider. Ouais, ok, d'accord, j'y vais. Et y a beaucoup de fois on m'a dit ah mais je sais pas pourquoi tu fais ça, hein. Moi je le ferai jamais, hein. Ça prend trop de temps. Ouais, mais en fait, tu gagnes rien, là.
Ouais, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Moi, qui suis passée aussi par là, je pense qu'en fait, quand on te fait ces retours-là, les gens se rendent pas compte de la richesse de ta vie, quoi. Moi, j'ai l'impression, en tant qu'entrepreneur, que j'ai une énorme chance. Alors que oui, bien sûr que tu peux le voir, en fait, de différentes manières. Bien sûr que tu peux le voir comme quoi, il y a un énorme risque financier. Oui, c'est clair. Mais t'as une liberté qui est juste unique et qui est injetable.
Non, et en plus, et c'est pas seulement la liberté, je veux juste en rajouter ce que tu dis, la liberté, parce que souvent quand on dit ça, les gens ils pensent à la liberté au niveau de notre temps, non. Mais c'est la liberté de aussi sur des projets qui
exactement de choisir tes clients, bien sûr.
De dire bah non en fait ça, parce que moi j'ai refusé des gens à dire non, mais en fait votre projet souvent c'est pas le projet, c'est plus la personnalité qui matche pas ou la façon de travailler et dire bah non en fait c'est pas comme ça que je veux travailler. Mais ça c'est et c'est vrai que moi en plus moi je suis dans un domaine où la plupart des gens ne savent pas ce que je fais. J'ai testé avec mon mec en lui demandant comment t'expliques ce que je fais. I don't know, you're French. OK, mais tu sais que c'est pas un travail. Yeah. OK, je lui dis mais tu expliques ça aux gens? Il m'a dit oui. OK. donc pareil, je me suis dit attends, c'est moi qui explique mal. Donc j'ai testé quand même avec mes amis qui me connaissent depuis plusieurs années et qui m'ont dit on n'a aucune idée de ce que tu fais. J'ai dit bon bah, ça va c'est pas lui mais effectivement en fait les gens ils voient pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, la richesse, toutes les rencontres aussi parce que j'ai rencontré tellement de personnes intéressantes. Comme t'as déjà un sujet en commun, ça va être plus facile d'accrocher que c'est des gens que peut-être que si t'avais pas ça en commun, tu n'aurais pas l'occasion de creuser un peu et de découvrir des personnes qui sont hyper intéressantes. Donc non, c'est clair que la liberté, et c'est ce qui est beaucoup ressorti aussi dans mes amis les plus proches les derniers mois, parce que j'ai été hyper bien soutenue. Ils m'ont dit, mais quand même, t'es toute seule à Toronto, dans un pays qui n'est pas le tien, une ville qui n'est pas ta ville de naissance, parce que je la considère quand même comme la mienne, mais avec des charges. Tu vis toute seule, Toronto, et t'as pas eu une seule fois peur. En tout cas, tu l'as pas. J'aurais dit, bah non, mais parce que je savais que ça allait marcher.
T'as jamais douté?
Bah non, j'ai pas douté. Après, il y a des jours où je me suis, surtout à Noël quand j'étais malade et que j'étais toute seule au fond de mon canapé, là, bon, c'est là. Mais comment en fait, parce que c'était les 6 mois en plus. Donc c'est l'anniversaire des 6 mois du licenciement.
Ouais.
Je me suis dit bon t'en es où par rapport à ce que tu t'es dit tout ça, mais non, et puis là en plus quand je vois ce que je fais, non, j'ai aucun doute que j'ai pris la bonne décision, j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner, et puis même si ça n'avait pas fonctionné j'aurais trouvé une autre solution ou j'aurais fait autre chose j'aurais rebondi. En fait il y a pas de... je sais qu'il y a des gens qui disent oui c'est bien d'avoir des échecs pour apprendre, mais en fait vu que j'apprends toujours des choses qui se passent pas forcément comme j'ai envie, j'ai jamais le sentiment de l'échec.
Tu le vis pas comme un échec. C'est génial et c'est la meilleure manière de le vivre quand t'arrives à prendre ce recul et à tout de suite te retourner vers le futur. C'est super. Écoute, en tout cas, bravo. Bravo, bravo. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tout a l'air de bien aller. T'as l'air quand même sacrément heureuse, à part que bon, t'aimerais bien aller voir à quoi ressemble le printemps dehors. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Je me plains pas, j'ai une terrasse.
Ah, sympa ça.
Voilà, c'est pour ça que au tout début, quand je parlais du printemps, c'est parce qu'il y a beaucoup quand même de gens qui ont des terrasses. Donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir quelques rayons de soleil sur sa terrasse. Voilà. Et pour moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, que ça continue comme ça, que j'ai plus d'opportunités, que je continue à avoir des opportunités intéressantes pour bosser, mais aussi pour développer le blog, parce que c'est un de mes gros objectifs, c'est de, en assurant la pérennité financière avec mes compétences, de pouvoir consacrer plus de temps au blog, plus de temps pour aider ma communauté, pour organiser des événements. Donc j'ai plein d'idées, mais il fallait d'abord que je me concentre sur mon côté personnel et financier, et enfin professionnel pour pouvoir développer ça. Donc je pense que c'est ça. On peut me souhaiter ça et puis de continuer à aimer ma vie ici, quoi. À aimer ma vie ici. Pouvoir, s'il vous plaît, remettez des avions dans quelques mois qu'on puisse rentrer un peu en France quand même.
Bon, très bien. Mais écoute, on a plein de choses à souhaiter. C'est tout ce qu'on souhaite. Tu le sais sans doute, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous partager trois endroits qui pour eux sont essentiels à visiter ou à expérimenter lors d'un séjour dans leur ville. Qu'est-ce que ce serait ces trois endroits à Toronto pour toi?
Alors, le premier, aller dans les îles de Toronto.
Ah ouais.
Parce que c'est vraiment, c'est en fait, on a la grande chance qu'on a à Toronto, c'est que déjà il y a plusieurs parcs, mais il y a aussi les îles en face. Donc, vous pouvez voir toute la skyline, voir tous les bâtiments. Si vous venez le soir, prévoyez le pique-nique et vous allez voir le soleil se coucher sur la ville, les buildings s'illuminer et c'est vraiment super joli. N'oubliez pas l'anti-moustique par contre parce que c'est au bord de l'eau donc ça pardonne pas là-bas mais c'est très très joli. Le deuxième endroit c'est on a l'impression que je vais vous dire d'aller manger tout le temps mais il y a un restaurant qui est au 51e étage et pareil c'est hyper joli le soir parce que d'un côté vous avez tous les buildings avec la CN Tower,
ouais.
le thème de la ville qui vous permet surtout de vous repérer quand vous êtes visiteur ou nouveau et là en fait d'un côté vous allez voir tous les buildings et de l'autre côté vous voyez tous les lotissements en fait parce qu'il y a pas de building, il y a pas de grand building et c'est hyper joli enfin c'est une belle vue et la troisième chose que moi j'aime beaucoup c'est le vieux quartier de Toronto où il y a Distillery District qui est une ancienne distillerie. Et il y a Saint-Laurent Market, le marché couvert. Et là, c'est toutes les voilà, c'est en pierre rouge, rouge. Pas très bonne pour décrire. Hein, vous irez voir vous-même. Mais mais c'est hyper joli, c'est très ancien, ancien. Puis il y a une partie qui est réservée aux piétons. Et j'aime beaucoup. En plus, l'été là, c'est tout fleuri. Il y a un coffee shop qui est génial. Moi, j'y vais bosser sur la terrasse. En septembre, j'y étais là quand les touristes sont un petit peu partis, parce que c'est quand même très touristique maintenant ici. Et c'est avec toutes les fleurs et tout, c'est trop bien.
Non, écoute, ça fait rêver.
En fait, il faut juste venir quand il neige. Mais sinon, le reste du temps, franchement, c'est vraiment cool.
Très bien. Bon, bah écoute, c'est noté. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de ton blog. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse de ton blog pour qu'on puisse le partager avec les auditeurs?
Alors, c'est fringeinto.com, fringe comme la frange, F-R-I-N-G, I-N-T-O comme à Toronto.
Je me demandais, j'avais compris la frange et puis la suite, je sais, j'étais pas sûre. Moi, je pensais que c'était alors, un jeu de mots avec le gin tonic, tu vois.
Non, mais vraiment, je pense qu'il y a déjà la moitié des gens qui ne savent pas le prononcer, donc j'ai des fringuinto, régulièrement. Alors, c'est fringeinto. Et c'était le jeu de mots parce que mes copains en BTS m'appelaient toujours frangine, frangipane, frange machin.
Yeah.
Donc c'est l'occasion de leur
rendre
pareil, c'est toujours oui voilà. Et c'est vrai que pour moi maintenant ça me semble logique, mais il y a plein de gens qui le lisent pas. Et c'est drôle parce que ça fait une petite histoire à raconter.
Exactement, tu vois la preuve. Bon, très bien. Et puis ton handle Instagram, c'est le même, c'est ça? Fringeinto.
C'est le même. Je suis très active, je danse, surtout en ce moment là.
Ouais.
Je partage un peu de bonne humeur pour faire sourire les gens parce que bon, en ce moment on en a tous besoin.
Exactement, mais écoute, t'as bien raison. Écoute, Astrid, je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire, d'avoir pris le temps justement, comme tu le dis, de semer de la bonne humeur. Ça fait du bien à tout le monde. Je te souhaite une très bonne soirée et je te souhaite un confinement aussi court que possible à Toronto. À très bientôt.
Merci à toi en tout cas, c'était un grand plaisir et puis pareil, hein, je te souhaite la même chose, confinement le plus court. Et puis pourquoi pas de venir te rendre visite chez toi aussi. Hein.
Avec grand plaisir, on n'est pas très loin.
Bye bye.
À bientôt. Et
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues cette semaine sur Apple Podcasts. Un grand merci donc à Underfly qui nous écrit depuis les États-Unis et qui nous dit « Excellent, merci les filles pour ce podcast qui me rappelle mon expatriation en France il y a presque 10 ans. Des invités intéressants et inspirants, des interviews bien menées et une équipe qui est vraiment géniale. Long live Felp. » Écoute, merci beaucoup. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.